Alors moi, je vais parler des concierges d'origine portugaise que j'ai rencontrés dans une recherche plus générale sur les concierges dans les immeubles du parc privé à Paris. Ce n'est pas une enquête qui porte à proprement parler sur les Portugais et les Portugaises dans ce secteur d'emploi, même si j'y reviendrai. Plus de la moitié des femmes qui ont une loge à Paris sont nées au Portugal. C'est dire l'importance de cette population et j'y reviendrai, beaucoup de leurs descendants et de leurs descendantes surtout, enfants et même aujourd'hui petits-enfants, travaillent dans ce secteur, même s'ils ont la nationalité française et si la statistique publique en France ne permet pas d'identifier précisément les descendants d'immigrés. Alors, c'est une enquête qui est en cours, donc vous pouvez critiquer à volonté, puisque ça me sera tout à fait constructif pour essayer d'améliorer mes résultats, dans laquelle j'utilise différents types de données, des entretiens biographiques que j'ai menés avec des concierges, des gardiens et des gardiennes d'immeubles, en passant du temps dans leur loge, ce qui me permet d'observer leur travail. J'ai analysé la presse corporative et syndicale, il y en a beaucoup, depuis à peu près sur une période d'environ 100 ans, différents groupes Facebook de gardiens et de gardiennes d'immeubles. J'ai rencontré des représentants des organisations patronales et puis j'ai bénéficié, j'en parlerai, d'un travail statistique qui a été réalisé à ma demande par un sociologue statisticien, Lucas Tranchant, qui a exploité les données du recensement et de l'enquête emploi. Alors, je vais développer trois points. Je vais d'abord donner des éléments de cadrage sur les emplois de concierges et l'importance des concierges d'origine portugaise à Paris. Je vais esquisser des éléments de réponse à deux questions. Comment expliquer l'importance de ces concierges d'origine portugaise dans la capitale et comment devient-on concierge logé? Et enfin, pour terminer, puisque c'est un thème important de la journée d'études, je vais présenter quelques réflexions tout à fait provisoires sur les rapports sociaux, notamment les rapports de classe dans lesquels sont engagés ces concierges d'origine portugaise. Alors, quelque chose d'important à savoir à propos des concierges et gardiens d'immeubles. Dans le parc privé, dans les immeubles privés, il y a deux grands statuts d'emploi qui sont régis par une convention collective qui est différente de celle des gardiens HLM, du logement social, où ce sont d'autres problématiques d'emploi qui recoupent parfois celles du parc privé, mais qui s'en éloignent très souvent. Il y a deux grandes catégories. La catégorie A, c'est un régime de droit commun, où l'on est rémunéré en fonction du nombre d'heures que l'on fait. Si l'on est en temps complet, c'est 151,67 heures. C'est souvent à temps partiel, et on en parle souvent comme des employés d'immeubles. Et puis, il y a la catégorie B, qui est une catégorie tout à fait intéressante. C'est un régime dérogatoire, c'est-à-dire que là, ce sont des concierges qui sont nécessairement logés et qui ne sont pas rémunérés en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, mais en fonction des tâches effectuées qui sont mesurées au moment de la signature du contrat. Donc, il peut y avoir des contrats où il y a des tâches relativement limitées. En général, c'est la distribution du courrier, le nettoyage des parties communes une ou deux fois par semaine et la tâche quotidienne, évidemment, la plus dure, qui est la sortie et la rentrée des poubelles. Et il peut y avoir aussi des exigences de permanence à la loge qui peuvent atteindre une amplitude de 47 heures et demie par semaine dans le cas du temps complet, donc ce qui prend beaucoup de temps. Et encore, cette amplitude horaire a été réduite avec la dernière réduction de la durée du travail, puisqu'elle était encore récemment de 50 heures et jusqu'en 1995, elle a même été de 55 heures, ce qui faisait que les concierges pouvaient se voir quasiment obligés à l'époque de travailler, quasiment d'être présente à leur loge tout le temps. Alors, pendant ces périodes de permanence, il y a des possibilités légales d'avoir des revenus complémentaires qui peuvent prendre différentes formes, notamment la forme du repassage, mais aussi dans certains cas de garde d'enfants à la loge, de garde d'enfants de résidents ou de garde d'animaux domestiques. Ce n'est pas les cas les plus fréquents. Le cas le plus fréquent, c'est le repassage, mais d'autres possibilités sont présentes. Alors, un point important, c'est qu'il y a une combinaison de différents statuts d'emploi, c'est-à-dire qu'on peut à la fois être gardien d'immeuble de catégorie B et travailler dans des immeubles voisins comme employé d'immeuble. Alors, c'est intéressant puisque, bon, Yasmine Ciblot a écrit beaucoup de papiers avec d'autres sur la nécessité de penser ensemble les ouvriers et les employés. On peut donc être, quand on est concierge de catégorie B, classé dans la nomenclature des PCF, dans le groupe des ouvriers, mais si on est employé d'immeuble, on est dans la catégorie 684A des nettoyeurs. Donc, on est à ce moment-là un employé. Et alors, combien y a-t-il de gardiens en France ? En France métropolitaine, en 2014, il y avait un petit peu moins de 46 000 concierges et gardiens d'immeubles. C'est un phénomène parisien, puisque un tiers de cette population réside à Paris, 29 % dans les autres départements d'Île-de-France, et puis le reste sur l'ensemble du territoire. Les 15 646 concierges que compte la capitale française sont dans le parc privé. Il y en a seulement 5,4% dans des HLM. 40% sont en catégorie A, 54% en catégorie B, soit avec une loge. Et à Paris, dans le secteur privé, 84% des concierges sont des femmes et c'est même 87,5% en catégorie B. Dans les deux cas, un pourcentage bien supérieur à la province. Alors, la gardienne logée, c'est un phénomène parisien. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on observe principalement à Paris. 6 sur 10 sont à Paris, 1 sur 5 en banlieue et un tiers en province. Alors, d'où viennent ces concierges ? Jusque dans les années 50, c'était une population de migrants interne de gens qui venaient des provinces françaises se loger à Paris. C'était un emploi de mal logé, où bien souvent ça permettait à une femme d'avoir un logement et son mari s'employait dans l'industrie proche. Et puis progressivement, c'est devenu un emploi de travailleurs immigrés. Et aujourd'hui, deux tiers des concierges parisiens sont immigrés au sens de l'INSEE, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont nées étrangères à l'étranger et qui résident en France. Alors, combien y a-t-il de Portugais dans cette population ? Il y a très exactement 48,8% des concierges parisiens qui sont nés au Portugal, 22% en banlieue, 7% en province, et 53,9% des concierges logés à Paris, des femmes concierges logées à Paris, sont nées au Portugal. Donc, c'est dire l'importance de la population parisienne. C'est la première nationalité dans le parc privé. Les Français arrivent un petit peu derrière puisqu'ils représentent 30% de la population. Mais dans ces Français, il y a beaucoup de Français qui sont de parents portugais, qui ont un ou souvent deux parents qui sont nés au Portugal. En revanche, on observe aujourd'hui quasiment une disparition des Espagnols qui ont longtemps été importants. Il n'y a plus que 4,2% des concierges à Paris qui sont nés en Espagne. Et en revanche, c'est une donnée importante pour tous ceux qui travaillent sur les rapports de race ou les discriminations liées à l'origine. Il n'y a pratiquement pas de concierges du parc privé à Paris qui sont nés au Maghreb, en Afrique subsaharienne, en Turquie. C'est des pourcentages qui, selon les pays d'origine, s'échelonnent entre 0,4 et 1,1%, alors que, en revanche, dans le logement social, ils sont en nombre bien plus important, donc les propriétaires parisiens et les gens qui recrutent des concierges recrutent des gens qui sont originaires d'Europe, mais là je pense que Margot Delon pourra sans doute compléter sous un autre angle cette question-là au travers de l'idée de blanc honoraire à partir des Portugais en posant la question des blancs honoraires comme on le fait, j'imagine, pour les Asiatiques dans la sociologie américaine. Donc, un grand regret dans cette enquête, mais un grand regret qui est né, qui est lié à la statistique publique, il n'a pas été possible d'établir le nombre de concierges descendants de Portugais ou conjoints de Portugais, puisque parfois, on trouve des concierges qui sont français depuis plusieurs générations, mais qui ont rencontré une Portugaise et qui, à un moment de leur vie, reprennent à leur tour une loge. En général, ce sont d'anciens employés ou d'anciens ouvriers. Et puis, beaucoup d'enfants et même de petits-enfants de Portugais deviennent à leur tour concierges à un moment ou à un autre de leur vie. Alors, il n'y a pas de statistiques précises à ce propos. En étudiant les patronymes sur les différentes listes de diffusion, alors il y en a une qui est plutôt une liste de portugais, bon, qui n'est pas très significative, mais il y a un autre groupe Facebook où là, c'est un peu tous les gardiens d'immeubles. Il y a à peu près la moitié des gens qui ont un patronyme d'origine portugaise tout à fait identifiable. Donc, bon, je regarde un peu les détails, où ils sont nés et tout. Donc, je pense que, grosso modo, mais sans pouvoir en être sûr, il y a à peu près les trois quarts des concierges parisiens logés qui sont d'une façon ou d'une autre d'origine portugaise. En tout cas, on peut faire tracer un lien remontant à un moment ou à un autre au Portugal. Alors, première question, c'est comment expliquer qu'il y ait aujourd'hui autant de concierges d'origine portugaise en France. À ce stade de ma recherche, et de manière sans doute provisoire et imparfaite, enfin, assurément provisoire et probablement très imparfaite, je distinguerai quatre facteurs. Le premier facteur, c'est le contexte d'arrivée des Portugais dans le métier, au temps de ce que le sociologue portugais Albano Cordeiro appelait le paratonnerre maghrébin, c'est-à-dire que quand les Portugais arrivent en France de manière massive à la fin des années 50 et surtout dans les années 60 et que les loges se libèrent, parce que beaucoup de ceux qui les occupaient, français ou espagnols, s'emploient dans l'industrie ou dans les services, les Portugais sont sur le marché du travail en concurrence avec les Maghrébins au lendemain de la guerre d'Algérie et c'est eux qui vont avoir la préférence des employeurs et on le sait pour Albano Cordeiro, un des facteurs qui a permis une meilleure insertion des Portugais en France, c'est le fait qu'ils ont souvent été préférés dans différents secteurs d'emploi aux immigrés originaires du Maghreb. Second facteur, c'est les modalités de transmission des loges. Les loges se transmettent fréquemment sans qu'il y ait un processus de recrutement très focalisé par les syndics. J'ai mené une enquête auprès des syndics. Les syndics disent qu'ils n'ont pas le temps de recruter des concierges eux-mêmes. Donc, finalement, ils se fient à la recommandation qui leur est faite. Recommandation, on recommande souvent un parent. Parfois, même si cette pratique semble en diminution, on revendait aussi un pas de porte, c'est-à-dire qu'on demandait de l'argent pour libérer une loge et on payait le concierge qui reprenait la loge, payait après s'être installé et le syndic et le président du conseil syndical, c'est évidemment, il y a toujours une période d'essai qui marchait ou qui ne marchait pas, mais ça, c'était après. Ensuite, pour expliquer la forte présence des descendants de Portugais, il faut évoquer les transformations de l'économie, c'est-à-dire que les descendants de Portugais, à la différence des descendants d'autres générations arrivées après eux, ont rencontré un marché du travail en crise après les années 1973, et ce qui a bien souvent fait qu'ils n'ont pas eu véritablement d'opportunités fortes, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, d'aller vers d'autres secteurs de l'emploi. Je vais accélérer puisque j'ai 5 minutes. Donc, quatrième facteur, parce que c'est un facteur qui a été esquissé ce matin, c'est des stratégies conjugales. C'est-à-dire que pour les descendants de Portugais, même si beaucoup disent qu'ils sont très différents de leurs parents qui étaient préoccupés par une stratégie d'épargne et qui économisaient le plus qu'ils pouvaient pour acheter une maison au Portugal, les enfants, même s'ils disent qu'ils ne font pas comme leurs parents, font aussi d'une certaine façon comme leurs parents, c'est-à-dire économisent beaucoup pour acheter, non pas au Portugal, mais en région parisienne, c'est-à-dire épargne la somme du loyer qu'il ne paie pas en résidant dans une loge pour acheter en région portugaise. Alors, autre question, comment devient-on concierge logé? Au fond, il y a quatre, on peut distinguer quatre types de modalités d'entrée dans le métier. Il y a d'abord les femmes qui sont arrivées du Portugal dans les années 60 et 70 et pour lesquelles prendre une loge a été une forme de petit déplacement, de mobilité sociale ascendante qui leur permettait d'échapper à des activités d'ouvrières ou à des activités de femmes de ménage en ayant un logement où elles ne payaient pas le loyer et où elles pouvaient s'occuper de leurs enfants et se dispenser des dépenses de crèche. C'est un métier aussi, c'est le second cas, de reconversion, si bien pour les hommes et les femmes, pour les immigrés comme pour leurs descendants, où l'on fait ça parce qu'on ne peut plus travailler dans d'autres emplois. Pour le cas des hommes, c'est le cas de beaucoup d'ouvriers du bâtiment qui sont épuisés ou de petits chefs d'entreprise qui ont connu une famille Et pour beaucoup de femmes, c'est souvent faute d'avoir pu accéder à d'autres emplois. Il y a aussi le cas tout à fait intéressant des Portugais arrivés avec la crise des années 2000. Certains sont diplômés, voire même très diplômés. Ce n'est pas le cas de la majorité, mais il y en a quand même. Et puis aujourd'hui, on rencontre aussi, même si c'est en nombre relativement limité, des étudiants d'origine portugaise, généralement enfants de concierges portugaises ou d'origine portugaise, qui ont une loge qu'ils occupent avec des contrats assez mal payés où il y a simplement les poubelles, le nettoyage des parties communes, et qui ont une loge pour 300 euros de rémunération par an qui leur permet concomitamment de suivre des études. Alors, quelques réflexions sur les rapports de classe. Pour comprendre les rapports de classe dans lesquels sont engagés les concierges, on peut évidemment mobiliser les variables sociologiques habituelles, l'âge, le sexe, la position dans le cycle de vie, la trajectoire. Il y a un déterminant essentiel, c'est ce que David Lepoutre a appelé la configuration d'habitation, c'est-à-dire l'ensemble des contraintes institutionnelles et juridiques qui pèsent sur les rapports qu'entretiennent les résidents d'un même immeuble. La situation idéale pour un ou une concierge à Paris, c'est d'être concierge dans un immeuble qui n'a qu'un seul propriétaire. C'est le cas de 14% des immeubles du parc privé à Paris. Ça peut surprendre pour tous ceux qui trouvent que le logement est hors de prix à Paris, mais il y a 14% des immeubles qui n'ont qu'un propriétaire. Et quand il ne vit pas là ou qu'on s'entend bien avec lui, finalement, ça ne se passe pas si mal que ça. La démographie de l'immeuble est également importante puisque quand une concierge a des relations privilégiées avec des personnes âgées ou des résidents connus de longue date, bien souvent, cela rend ces conditions beaucoup plus faciles. Et à l'inverse, quand la démographie de l'immeuble change, et que notamment de jeunes propriétaires arrivent, et souvent des jeunes propriétaires qui cherchent, la situation peut se dégrader assez rapidement. Alors, ce sont des rapports de classe complexes. D'abord, il faut le dire, les concierges ont des relations sociales avec, je vais dépasser de 2-3 minutes, hein, merci, avec d'autres membres des couches populaires, avec les facteurs, les ouvriers du bâtiment en particulier. Travailler dans les beaux quartiers, ce sont souvent des rapports très verticaux, mais qui parfois peuvent être préférés parce qu'on considère que c'est des gens qui ont de la classe, qui donnent de meilleures étrennes, qu'au moins les relations sont hiérarchiques mais claires. On rencontre aussi à Paris ce que dans les années 40, à la fin des années 40, le sociologue Raymond Gold avait qualifié de dilemme statut-revenu à Chicago, c'est-à-dire le fait que beaucoup de concierges et beaucoup de ménages, notamment où il y a une concierge et son mari qui est ouvrier ou par exemple chef de chantier, ont des revenus supérieurs à celui des résidents. Les résidents de couche moyenne. Mais si on calcule, par exemple, un reste à vivre après dépenses de logement, qui souvent est le principal poste budgétaire des ménages de Paris, on a des revenus plus importants, ce qui crée beaucoup de tensions et notamment des situations où sont rappelées l'infériorité sociale dans des situations tout à fait singulières. Par exemple, quand on constate bien qu'une concierge peut habiller ses enfants avec des vêtements de marque, ou que, alors là, le cas le plus terrible pour beaucoup de résidents, c'est quand les enfants de la concierge réussissent mieux à l'école que les enfants des couches moyennes, ce qui n'est pas si rare que cela. Alors, néanmoins, la domination au travail est rarement formulée dans un langage d'opposition de classe, et on retrouve en cela ce que Peter Berman avait mentionné dans son travail sur les portiers des beaux quartiers à New York, c'est-à-dire que bien souvent la concierge parle de ses résidents en les particularisant plutôt qu'en faisant une abstraction sous la forme d'un bloc homogène, justement de façon à limiter les tensions liées au rapport de classe en lui-même. Alors, je laisse de côté la question des syndicats qui sont intéressants. Ce que je voudrais dire simplement pour terminer, en m'excusant encore d'avoir dépassé mon temps de parole, c'est qu'il y a une plus grande sensibilité au mépris de classe chez les descendants d'immigrés, ce qui n'est pas contre-intuitif. En général, les descendants d'immigrés sont beaucoup plus réactifs que leurs parents sur les relations qu'ils subissent dans la société d'accueil, mais aussi chez les Portugais venus avec la crise, qu'ils appartiennent aux classes populaires portugaises ou aux couches moyennes. Ça, je pense que ça en dit long sur ce que beaucoup d'entre vous avez montré aujourd'hui, sur les transformations de la société portugaise et sur la façon d'interpréter les rapports sociaux. Donc, j'en conclue ici. Je rappelle que c'est une recherche provisoire qui a vocation à s'enrichir de vos commentaires et que le cas des concierges n'est qu'une des façons dont on peut parler de la population d'origine portugaise en France. Je vous remercie.
D'entendre tous ces travaux, ça donne plein d'idées, à la fois pour interpréter moi ce dont je vais vous parler, c'est-à-dire ma recherche doctorale, et puis aussi de nouvelles pistes pour des nouvelles enquêtes dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais ça m'intéressera bien de continuer à discuter avec vous. Donc, la présentation que je vais faire aujourd'hui, en fait, issue de ma thèse, qui a porté sur les trajectoires des enfants des bidonvilles de l'après-guerre en France. Et dans cette thèse, j'ai voulu comprendre comment l'expérience résidentielle des bidonvilles marquait les trajectoires de celles et ceux qui y avaient grandi et comment on pouvait interpréter les écarts entre ces trajectoires. Donc pour cela, j'ai mené une enquête par entretien, observation, archives et statistiques en étudiant les deux bidonvilles les plus importants numériquement des années 60, donc les bidonvilles de Nanterre et de Champigny-sur-Marne, sachant que ceux de Nanterre avaient une majorité d'habitants algériens, avec de manière plus marginale quelques Marocains et Portugais, et ceux de Champigny, par contre, étaient quasi exclusivement portugais. Et en fait, c'est par là que j'ai été amenée à travailler sur l'immigration portugaise. Et dès le début, en fait, de ce terrain campinois, j'ai en fait été confrontée à une sorte d'énigme, à savoir que c'était ce qui a été aussi rappelé par Dominique, les Portugais sont un groupe relativement peu enquêté au regard de son importance numérique. Et en fait, pour moi, ça a été beaucoup plus difficile de comprendre ce qui s'était passé à Champigny et comment les trajectoires socio-résidentielles des habitants s'étaient construites. Alors, dans cette présentation, je vais dans un premier temps donner quelques indicateurs statistiques sur la forme de ces trajectoires. Et dans une seconde partie, je présenterai plus en détail le cas de Champigny pour décrire le rôle des processus de racialisation dans la construction des trajectoires et plus largement pour décrire la position occupée par les personnes d'origine portugaise et leurs descendants en France dans l'hiérarchie de classe et de race. Alors, quelques indicateurs, trajectoire et origine. La grande enquête consacrée par l'INED et l'INSEE aux immigrés et descendants d'immigrés en France permet en fait de disposer de plusieurs grands indicateurs sur ces trajectoires. Alors, ce qu'on voit déjà en exploitant ces données donc, qui datent de la fin des années 2000, c'est que les personnes d'origine portugaise, alors là je vais parler toutes générations confondues, sachant qu'il faut évidemment distinguer entre les premières et les secondes générations, disposent en fait de plus de capitaux économiques et immobiliers que les personnes d'origine algérienne, marocaine ou tunisienne. Les personnes d'origine portugaise sont ainsi 51% à être propriétaires de leur résidence principale par rapport à l'enquête Théo, et c'est un taux qui est comparable à celui de la population majoritaire. Pour autant, là on a un premier élément de discordance entre les statuts résidentiels et sociaux, ces enquêtés sont en fait ceux qui occupent des positions assez dominées et ségrégées sur le marché de l'emploi. Les immigrés et descendants d'immigrés portugais appartiennent en fait dans leur ensemble majoritairement aux classes populaires, avec 56% d'employés pour les femmes et 51% d'ouvriers pour les hommes. Et alors que la population majoritaire comprend 14% de cadres et professions intellectuelles supérieures, cette part tombe en fait à 5% pour les répondants d'origine portugaise. Et on observe également une ségrégation sectorielle importante, avec une forte présence des hommes d'origine portugaise dans le secteur du bâtiment et des femmes d'origine portugaise dans celui des services. Alors, comment on peut expliquer ce décalage entre les positions économiques résidentielles d'une part et les positions professionnelles du groupe ? Donc, ça tient en fait en partie au moindre accès aux études supérieures, qui se remarque d'ailleurs moins pour la seconde génération que pour la première, mais qui est quand même assez fort. Mais ce qu'on voit aussi avec les données de l'enquête Théo, en fait, c'est que les Portugais et leurs descendants, même quand ils sont diplômés du supérieur et même lorsqu'ils ont en fait acquis la nationalité française, ils occupent quand même moins souvent que les autres des emplois de cadre et professions intellectuelles du supérieur. Donc il y a bien un écart qui se maintient et qui contraste avec ce que rappelait Dominique, les discours de très forte intégration et d'immigrés modèles qui sont souvent tenus sur les immigrés et descendants portugais. Alors, en dépit du coup d'une intégration économique et résidentielle très très marquée, en fait, il subsiste bien des écarts avec la population majoritaire qui peuvent, sur certains plans, rapprocher ces enquêtés d'origine portugaise des immigrés descendants d'immigrés des anciennes colonies du Maghreb. Et donc, c'est à ce moment-là que la catégorie de blanc honoraire, je pense, peut être utile pour essayer de décrire leur position. Donc, c'est une catégorie qui est proposée par Eduardo Bonilla Silva, un sociologue états-unien, pour décrire des positions qui sont intermédiaires dans la stratification. Donc qui ne concernent ni ce qu'on appelle la population majoritaire, ni les groupes vraiment dominés en bas de la hiérarchie. Et donc cette catégorie de blancs honoraires concernerait des groupes autrefois dominés qui connaissent un processus de blanchiment et qui donc sont un peu à l'intersection entre les deux pôles de la stratification. Et c'est donc ce processus de blanchiment que je vais décrire à présent de façon plus approfondie à partir du cas du bidonville portugais de Champigny-sur-Marne. Alors, cette étude de cas se situe dans le prolongement des travaux existants et déjà conséquents en France sur les bidonvilles de l'après-guerre, alors à la fois de Françoise de Barros, mais aussi de Victor, dans le prolongement aussi de certains travaux de Victor Pereira, puis aussi de ce qu'ont écrit Marie-Claude Blanchaléard et Muriel Cohen. Et ce que moi je vais essayer de faire par rapport à ces travaux, c'est de peut-être montrer davantage la dimension relationnelle de la stratification raciale, qui se donne à voir dans le traitement politique de ces espaces résidentiels marginaux et ségrégés, ainsi que la façon dont les logiques de classement évoluent en fonction des acteurs et des circonstances politiques. Donc, un des enjeux pour moi, c'était notamment de voir si et comment la désirabilité des Portugais qui est construite par les politiques de l'immigration analysées par Alexis Spire, Sylvain Laurence et Victor Pereira, donc dans un certain nombre de travaux sur les politiques d'immigration, est-ce que cette désirabilité, on l'a retrouvée en milieu urbain à cette période? Alors, globalement, quand on compare Nanterre et Champigny, c'est assez net. Il y a vraiment même si ça paraît bizarre d'employer le terme de privilège en fait pour parler des bidonvilles, quand on compare les deux cas, les habitants des bidonvilles portugais ont bénéficié de certains avantages, en tout cas, que n'avaient pas ceux des bidonvilles algériens, puisque leur bidonville était globalement moins visible, la police était moins présente, ce qui a rendu aussi des constructions plus durables. Donc, c'était aussi très concrètement, les baraques étaient moins souvent détruites, donc elles étaient mieux aménagées. Et certaines zones des bidonvilles de Champigny ont été aménagées aussi avec l'accès à l'eau, l'électricité, voire la voirie. Donc, comment on peut expliquer ça? C'est déjà bien sûr lié à l'absence d'un contexte tel que la guerre d'Algérie, qui a été très très fort à Nanterre et qui, évidemment, a beaucoup moins lieu d'être à Champigny. Mais quand on va regarder dans les archives, en fait, c'est aussi lié à la racialisation des habitants portugais. Et cette construction par les acteurs politiques de catégories et de perception et de traitement des habitants, elle opère notamment autour de points de comparaison explicites, en fait, avec les habitants algériens et plus largement avec les habitants qui sont issus d'une ancienne colonie. Donc, c'est ce que montre par exemple une note de la préfecture de 1965, donc qui décrit le bidonville de Champigny. Et cette note, donc je vais vous lire l'extrait. Comment se présentent ces constructions? Elles n'ont rien de commun avec celles des bidonvilles entre guillemets, nord-africains de Nanterre ou de Gennevilliers par exemple, en ce sens qu'elles sont le plus souvent édifiées entre guillemets en dur, avec des toitures en tuiles ou en fibrociment. La tôle ondulée et le bois y apparaissent assez peu, et les risques d'incendie y sont moins sérieux. Édifiées par des gens de métier qui utilisent une part importante de récupération amenée sur place par les employeurs eux-mêmes, elles offrent pour la plupart un toit convenable aux familles qu'elles abritent. Une certaine discipline préside à l'implantation de ces constructions. Il n'y a rien de comparable avec l'aspect de saleté des bidonvilles qui caractérise généralement les agglomérations nord-africaines. Alors, cet extrait, je trouve intéressant parce qu'il montre vraiment comment l'habitat sert en fait de support à des logiques relationnelles de racialisation. Donc la qualité des matériaux, leur provenance, les compétences et l'insertion professionnelle des constructeurs, la valeur même de l'habitat qui est quand même qualifié de toit convenable, ce qui pose toujours question à propos des bidonvilles, et la valeur des habitants aussi et des familles, l'ordre, la propreté, tous ces facteurs en fait sont ainsi successivement commentés afin de dresser, en creux de ce portrait relativement flatteur du bidonville de Champigny-sur-Marne, un portrait négatif des agglomérations nord-africaines, d'autres villes auxquelles se réfère explicitement et à plusieurs reprises l'auteur de la note. C'est également, je pense, très significatif, et c'est pour ça que je trouve la présentation tout à l'heure de Virgile était vraiment intéressante sur la construction, la question du secteur de la construction. Je pense que c'est très significatif que l'appartenance des habitants portugais au monde professionnel du bâtiment soit soulignée, comme si en fait les habitants algériens n'étaient pas et marocains n'étaient pas aussi concernés par cette appartenance professionnelle. Donc ça montre que la racialisation opère également autour de marqueurs plus spécifiquement accordés à ce groupe, comme la docilité, très liée à la perception des Portugais sur le marché du travail. Et c'est quelque chose qu'on voit bien, qu'on continue à voir avec les travaux sur une période plus récente, notamment avec l'enquête de Nicolas Junin sur les chantiers. Alors, par ailleurs, cette racialisation qui intègre les Portugais dans une forme de privilège blanc, tout en les infériorisant, on le voit, n'a pas été linéaire. C'est quelque chose qu'on voit dans les rapports de police et les lettres de riverains qui concernent le bidonville, qui témoignent en fait de tensions importantes et de processus de racialisation plus explicitement négatifs. Et là, je vais vous lire l'extrait d'une lettre d'une riveraine adressée au maire de Champigny. « Nous en avons assez de partager autobus et trottoirs devant une population qui s'accroît de jour en jour. Portugais qui sont sales, qui crachent à longueur de trottoirs et de chaussées, qui pissent sans retenue devant nos filles, qui n'ont aucune éducation, et qui enfin portent atteinte à l'hygiène, et sont des sources permanentes d'épidémies. » Ce que montre cet extrait, c'est qu'en fait, la façon dont les habitants sont catégorisés, dont ils sont racialisés, ça évolue aussi en fonction des enjeux urbains. L'extrait que je viens de lire, il est à ressuscité en fait dans une campagne d'action du syndicat de propriétaires qui sont riverains des bidonvilles, qui disent subir les nuisances de ce dernier, qui craignent pour la dévalorisation de leurs biens immobiliers. Et dans la même perspective, lorsque la démolition du bidonville devient une priorité pour la préfecture et pour la municipalité, qu'en fait les habitants, enfin je n'ai pas trop le temps de le développer, mais en fait les habitants résistent à l'expulsion et au relogement des formes institutionnelles d'habitat, le recours à la violence se produit et les contenus négatifs de la catégorie prennent le dessus sur les contenus positifs, sur ces contenus positifs. Donc par exemple dans les notes des conseillers préfectoraux, des explications culturalistes participent à une essentialisation négative des Portugais. On les décrit comme étant vraiment mus par l'appât du gain ou par une, je cite, une origine montagnarde qui en fait des gens particulièrement frustres. Voilà. Ok, donc ce mode de gestion urbaine, j'essaie de le montrer, opère quand même assez largement à partir de catégories raciales. Il a eu vraiment de nombreux effets sur les trajectoires socio-résidentielles. Il a également imprégné, et c'est là-dessus que je vais me concentrer dans le dernier temps de cette présentation, les identifications et les logiques de confrontation qui se construisent dans l'espace résidentiel et qui infléchissent, qui sont aussi susceptibles d'infléchir par le bas les processus de racialisation. Donc là, je vais faire un bond temporel et parler non plus de la période des années 60 et 70, mais de la période plus contemporaine et donc des entretiens et observations que j'ai réalisés avec les anciens habitants. Donc si c'est difficile de reconstituer a posteriori et avec précision cette influence réciproque entre catégories d'action publique et construction par le bas des processus de racialisation pour la période des bidonvilles, puisque c'était il y a 40 ans et c'est assez dur de trouver en fait des traces des réactions des habitants dans les archives. Par contre, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est avec des entretiens d'observation, c'est comment ça imprègne leur manière de se positionner dans les rapports sociaux, notamment à l'échelle locale. Donc, je redis ce que j'ai un peu déjà dit, c'est à savoir que ce que je vais dire sur les rapports sociaux, c'est vraiment très lié à mon terrain, donc sur les anciens habitants des bidonvilles de Champigny. Ça n'a pas vocation à s'appliquer à l'ensemble des habitants d'origine portugaise en France, et pour ça, il faudrait d'autres enquêtes localisées sur d'autres groupes pour voir à quel point ça peut se généraliser. Donc, ce que j'ai repéré dans mon terrain, c'est en fait une forme de blanchiment par la reproduction des stéréotypes et notamment par celui du portugais courageux qui permet de se distinguer des minorités coloniales et postcoloniales. La revendication d'une proximité dans les modes de vie sert de même à s'identifier dans une certaine mesure à la population majoritaire blanche. Et je voudrais ici en particulier insister sur l'importance des espaces résidentiels comme espaces où ce blanchiment se constitue dans la confrontation avec d'autres groupes. Et dans mon terrain, du coup, j'ai repéré trois modalités de ce blanchiment que je vais successivement développer ou mentionner. L'hypercorrection mémorielle, l'alliance politique locale et dans les sociabilités, et la distanciation dans les rapports résidentiels. Alors, le mépris et les discriminations subies en France tendent en fait à être minimisés dans les narrations recueillies par une posture d'hypercorrection. alors que d'autres entreprises de mémoire reposent précisément sur une demande de reconnaissance souvent conflictuelle, le récit du passé qui est promu par les enfants du bidonville de Champigny d'origine portugaise se distingue en fait par une recherche constante de consensus. Donc ainsi, l'association d'anciens habitants du bidonville, qui se crée en 2013, a pour ambition de rendre hommage à Louis Talamoni, donc le maire de Champigny à l'époque des bidonvilles, en lui construisant une statue. Ce qui est vraiment très très différent du cas de Nanterre où, au contraire, la lutte de reconnaissance prend l'allure d'une campagne contre la municipalité pour obtenir la reconnaissance d'un habitant qui s'est fait assassiner dans les années 80. Alors, quand je le questionne sur les motifs de cet hommage, Joël Aragna, qui est vice-président de l'association, répond que le maire a, entre guillemets, juste fermé les yeux pour nous laisser vivre notre vie. Donc, le récit de l'épreuve du bidonville de Champigny devient ainsi le support de la promotion d'une vision assez stéréotypée et lisse de l'intégration des Portugais en France. La ville comme espace de coprésence associative et résidentielle, comme enjeu de distribution des ressources et comme scène d'opposition politique, est également un contexte où une association préférentielle aux Blancs se concrétise. De nombreux ménages d'origine portugaise soulignent en effet leur proximité sociale et résidentielle avec les fractions basses des classes moyennes blanches non immigrées, en disant qu'elles partagent avec ces dernières des assises... dans la mesure où elle partage, comme l'a dit, à la fois une position économique et une position résidentielle, un fort accès à la propriété, un modèle d'habitat individuel et puis une trajectoire souvent orientée vers l'acquisition d'un capital économique plutôt que culturel. En fait, ça leur est plus facile de s'identifier à ce modèle, celui qui qualifie de français moyen, et de souligner ainsi leur relation française passée et présente. Donc là, j'ai plusieurs extraits d'entretien, notamment Maximo Martins, qui m'explique que tous les Français ont des amis portugais, puis Nestor Sarmento, qui m'explique qu'il n'y a jamais eu de racisme entre Portugais et Français, je pense, j'ai toujours eu des copains français, et ça s'est toujours très bien passé, même au travail, j'ai jamais eu que des amis français. C'est comme les Portugais, c'est exactement la même chose. J'ai jamais vu la différence, que ce soit Français ou Portugais. Hier, par exemple, j'étais avec mon voisin, il est Français, il me dit, là, vous faites partie des anciens d'eux, et il me donne le nom de sa commune. Dans la même perspective, on observe en fait pour ce profil d'enquêté une préférence politique à droite qui incite à relativiser l'idée que les personnes d'origine portugaise seraient en retrait du jeu politique afin de demeurer discrets et invisibles. L'essentialisation de l'hostilité envers les communistes permet ainsi à un autre enquêté, Edmond Livera, de faire de la communauté portugaise, ainsi qu'il la qualifie, la seule alliée potentielle à l'échelle locale des fractions à capital économique des classes moyennes blanches. Donc, je cite Edmond Livera parce que bon, c'est pas pour dire, mais les Portugais, on n'est pas trop à gauche. C'est vrai, on n'est pas trop communiste. Parce que bon, on vit tous bien, on travaille, on n'est pas trop... Et quand c'est les Français qui nous disent « si vous votiez tous, ça pourrait changer, ça pourrait faire un sacré... » Parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont contre les communistes, il faut appeler un chat un chat. Il y en a beaucoup à Champigny, parce que bon, il y a beaucoup de social, ils sont un petit peu contre. Parce que tous les autres, les Maliens, ceux qui sont au Bois-l'Abbé qui est un quartier d'habitat social, ils votent tous pour avoir des aides. Et au-delà des questions de politisation, je pense que ce dernier extrait est intéressant parce qu'il indique vraiment, on retrouve un peu l'idée de classification tripartite des origines, donc telle que Bonilla Silva décrivait son modèle. D'un côté, on a les Français, de l'autre, on a les Maliens, et plus généralement ceux qui sont au Bois-l'Abbé dans le quartier ségrégé d'habitat social. Et puis en creux, on a les Portugais qui manifestement sont inclus ni dans l'une ni dans l'autre des catégories. Et le rapprochement avec les catégories des Français s'effectue ainsi par l'établissement d'une frontière très nette avec les minorités issues des immigrations coloniales et postcoloniales. Voilà. Et puis le troisième aspect, mais je ne vais pas développer parce que c'est des choses sur lesquelles j'ai moins d'éléments pour l'instant, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait creuser, c'est les rapports résidentiels qui se construisent autour des styles de vie et des modes de cohabitation à l'échelle locale et comment peut y avoir des rapprochements qui se font avec... Merci. Mais du coup, je vais finir avant. Mais, mais du coup, voilà. Je pense qu'il y a des trucs à creuser, mais pour l'instant, mon enquête ne me permet pas vraiment de développer ça. En conclusion, je voudrais souligner deux points qui sont aussi peut-être des pistes pour des enquêtes futures. Déjà, en s'interrogeant sur les implications d'une telle stratification triraciale. Donc, au-delà du cas des anciens habitants portugais de Champigny, je pense que ce serait intéressant de voir comment la catégorie de blancs honoraires peut jouer un rôle tampon dans les conflits qui sont noués autour des rapports sociaux de race, en rendant en fait moins apparentes les frontières raciales et en favorisant le développement d'un racisme sans race. Et ça, c'est un aspect qui est développé par Eduardo Bonilla Silva dans son ouvrage du même nom. Là encore, les données collectées au cours de ma thèse, en fait, me donnent à voir que des bribes de ce genre de logique qui sont par ailleurs dénoncées. Mais ça incite, je pense, la poursuite de l'enquête. Ça m'incite à poursuivre l'enquête à Champigny, ce que je vais à présent faire, mais sous un autre angle, celui des pratiques immobilières locatives, pour voir mieux comment ça se poursuit. Comment ces histoires-là se poursuivent dans le même terrain. Et puis, de manière plus générale, je pense que ce cas que je viens de vous présenter, ça incite vraiment, mais c'est pas vous que je vais convaincre, parce que vu qu'on travaille du coup tous sur des groupes précis, ça marche. Mais c'est aussi parce que des fois en sociologie d'immigration en France, on a tendance à travailler avec des catégories assez larges. Ce que Boniessy appelle les loose categories, les Maghrébins, les Européens, donc des catégories en fait qui regroupent plusieurs origines nationales ensemble. Et alors que je pense que c'est vraiment, il faudrait même en fait insister davantage que je l'ai fait sur les différences internes aux groupes nationaux, en regardant ce qui se passe à l'échelle des régions, voire des villages d'origine. Et un autre truc que j'aimerais bien continuer à faire, et c'est un appel aussi aux personnes potentiellement intéressées dans la salle, ce serait en fait de continuer à étudier les personnes d'origine portugaise en les comparant non plus seulement aux personnes d'origine algérienne et marocaine, tunisienne comme je l'ai fait, mais aussi avec d'autres migrations européennes. Et je pense qu'on peut faire ça avec l'enquête trajectoire et origine. Et ce serait particulièrement intéressant pour voir qu'est-ce qu'on peut continuer à faire de cette catégorie de blancs en horaire. Et par exemple, comment les descendants d'immigrés italiens et espagnols se situent par rapport aux portugais. Notamment dans l'accès aux études supérieures, il y a vraiment des écarts. Et comment on peut interpréter ces écarts du coup, comment tout ça se découpe. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention.
C'est pas mal. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter une recherche qui est encore en cours, dont je n'ai pas analysé les matériaux, menée auprès de migrants et migrantes portugaises en France. Donc, comme je n'ai pas analysé les matériaux au sens où je ne me suis pas replongée dedans et que c'est des éléments qui sont récents et que je n'ai pas décortiqué. Je vais d'abord revenir sur ma démarche et le point de départ de cette recherche. Je vais présenter le dispositif d'enquête et je vais présenter un certain nombre de pistes pour ce qui se concentrait sur la question de comment analyser les trajectoires sociales de ces migrants et migrantes portugaises que j'ai rencontrés dans une commune de banlieue parisienne. Alors, je vais aller très rapidement sur le premier point, puisque la journée a déjà permis de présenter beaucoup de choses. Donc, c'est un travail que je mène dans le cadre de la collaboration qui nous réunit aujourd'hui avec Virgilio et les autres collègues de l'Université de Porto. Le point de départ de notre projet, c'était, comme on l'a rappelé ce matin au tout début, de nourrir une réflexion sur la comparaison internationale et plus spécifiquement européenne en termes d'analyse de classe, de structure sociale et de rapport de classe, centré plus particulièrement sur les classes populaires, avec l'idée de nourrir ces outils de comparaison, pas seulement avec des analyses statistiques qui sont très intéressantes, mais aussi par tout un ensemble de travaux ethnographiques. Dans le cadre de ce projet de recherche, dans l'idée de renouveler un peu les approches de la comparaison en termes de classe sociale, on s'est aussi dit qu'il était très important de mettre l'accent sur les migrations dans les recompositions des classes sociales et des classes populaires en particulier. Ce matin, Irène Dos Santos disait que la sociologie de l'immigration ou des migrations et celle des classes sociales ne se croisent pas toujours. C'était l'idée de vraiment faire dialoguer ces deux ensembles de travaux. Donc, les migrations portugaises, comme ça a été largement évoqué, ont connu un regain vers la France avec la récession, la crise économique à partir de 2008 et des années qui ont suivi. De plus, les terrains d'enquête qu'on a explorés les uns et les autres sont des terrains qui sont concernés par ces mouvements. Comme vous l'avez entendu aujourd'hui, les terrains dans le nord-ouest du Portugal qui ont été étudiés par les collègues de Porto sont largement concernés par l'émigration de longue date. Et pour ma part, j'ai mené des enquêtes de terrain en région parisienne, dans des communes, en particulier une qui est concernée elle aussi de longue date par l'immigration portugaise. Donc, dans le cadre du projet de collaboration qu'on a élaboré ensemble, on a décidé de prendre aussi cette entrée par les migrations pour comparer les groupes sociaux dans les deux pays. Donc, je vais pas pouvoir ici faire un travail comparatif. On n'a pas encore confronté les données tirées des enquêtes l'enquête sur la construction et des trajectoires des ouvriers dont Virgilio a parlé tout à l'heure. Je vais me centrer sur l'enquête que je mène actuellement. Et pour aussi donner des pistes de comparaison entre les matériaux. Alors, l'enquête que je suis en train de mener en banlieue parisienne, donc je l'ai conçue dans le cadre de ce projet pour poursuivre plusieurs questions de recherche, donc se donner les moyens d'analyser de façon fine des trajectoires sociales et les positions de migrants dans les deux pays, espace de départ et espace d'installation. Dans le cadre de cette démarche, pour ma part, j'ai choisi de me centrer plus spécifiquement sur les trajectoires féminines pour nourrir la réflexion sur les rapports de genre, qui est une thématique qui a déjà été abordée plusieurs fois, mais aussi dans le prolongement d'autres enquêtes que j'ai faites sur des groupes professionnels proches de ceux occupés par les femmes que j'ai rencontrées, donc des blanchisseuses et des agents d'entretien d'école primaire. Donc j'avais aussi cet intérêt pour ces groupes professionnels. J'ai choisi de prendre pour entrée la question des rapports aux institutions, qui est une question sur laquelle je travaille de longue date dans le cadre des classes populaires en France, mais qui me semblait être un bon moyen aussi d'analyser ces trajectoires et positions sociales au sein de ce groupe. Et pour finir, je vais aussi aborder une dimension que j'avais en tête, mais je ne pensais pas l'aborder de cette manière-là, qui est la question des dimensions ethno-raciales, non pas des relations que ces migrants entretiennent avec d'autres, puisque je n'ai pas les moyens par mon enquête de les aborder, mais plutôt les dimensions ethno-raciales de la façon dont ces personnes se présentent et dont elles mobilisent, ou pas d'ailleurs, ces dimensions dans la manière de se présenter et de se positionner socialement. Donc l'enquête est une enquête localisée dans une commune de la banlieue parisienne, qui est une commune dans laquelle j'ai mené d'autres enquêtes par le passé. Mon idée était, en me centrant sur une commune, d'essayer de faire varier les positions occupées par les personnes que je rencontrais, donc avec l'idée de rencontrer plutôt des personnes arrivées depuis une quinzaine d'années, mais plus largement de rencontrer aussi d'autres personnes en lien avec celle-là, et donc l'idée de faire varier leurs positions dans cet espace social localisé. Donc c'est une commune qui est encore majoritairement populaire, je ne détaille pas, même si elle se transforme beaucoup. Donc j'ai combiné plusieurs entrées pour faire varier les périodes d'arrivée, même dans une période récente, et les types de trajectoires. J'ai essentiellement fait des entretiens biographiques approfondis, mais il y a aussi tout un matériau d'observation de situations collectives, de travail, de sociabilité, d'observation de vie de famille à domicile, et un certain nombre d'entretiens ont pu être répétés. Ils sont presque exclusivement avec des femmes, d'abord parce que c'était un de mes intérêts de recherche, mais même si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été pareil, puisque les hommes, en général, n'acceptent pas de faire des entretiens pour tout un tas de raisons. Donc, j'ai rencontré un peu plus d'une trentaine de personnes, et donc j'espère pouvoir continuer. Donc, par quatre biais, essentiellement, une association de danse et de musique folklorique, qui va regrouper, pour ce que j'en vois pour l'instant, plutôt des personnes arrivées dans les années 80-90, un petit peu, et aussi dans les années 2000, donc la période est assez longue, des gens qui viennent du Nord, du Nord-Ouest, mais aussi du Nord-Est, qui sont, pour ceux que j'ai rencontrés, des ouvriers souvent qualifiés, des artisans du bâtiment, des femmes de ménage et employées du nettoyage, et qui ont, pour l'instant, pour tous ceux que j'ai rencontrés, des situations stables, voire qui sont en petite ascension sociale au sein des classes populaires. Deuxième entrée, dans la continuité d'une enquête précédente, j'ai rencontré les agents municipaux, les fonctionnaires municipaux portugais et portugaises de cette commune, en passant par les services des ressources humaines de la ville, puisque je me suis rendu compte par une autre enquête auprès des agents d'entretien des écoles qu'il y avait un certain nombre de portugaises, et donc j'ai rencontré l'ensemble des agents d'entretien portugaises des écoles de cette commune, mais aussi un certain nombre de ce qu'on appelle des ATSEM, donc des personnels qui assistent les institutrices en maternelle, donc en école préélémentaire, qui font aussi des tâches d'entretien. Parmi ces femmes, les origines géographiques sont plus variées. Il y en a un certain nombre qui viennent plutôt du centre et même certaines de la région de Lisbonne. Certaines sont aussi, il y a plus de femmes divorcées dans ce groupe aussi. Ensuite, je suis passée par les cours du soir organisés par la mairie via une association envers les migrants venant d'arriver dans cette commune, donc migrants de toute nationalité, puisque une des enquêtées avait suivi des cours du soir de cette association. Et donc, je suis allée dans cette association et j'ai rencontré les personnes qui, cette année, enfin, suivent. Il y a une autre association qui le fait, mais j'en ai vu qu'une pour l'instant. Les personnes qui, cette année, suivaient les cours de français, qui avaient des profils un petit peu plus divers que ceux que j'avais vus précédemment. Donc, plusieurs de ces personnes là-bas, venaient plutôt de la région de Lisbonne, hein, quelques-unes du Nord, mais les autres de Lisbonne. Ils ne sont pas du tout tous blancs, pour faire écho à ce que vient de dire Margot, puisque parmi elles et eux, j'ai rencontré plusieurs immigrés ou enfants d'immigrés brésiliens ou capverdiens. Et actuellement, donc ils sont arrivés récemment, ils occupent des emplois plus précaires et moins qualifiés dans le nettoyage et dans la construction par rapport aux autres. Je suis enfin passée par un centre social dans lequel j'avais enquêté précédemment, dans lequel un certain nombre de familles sont aidées pour leurs démarches administratives et donc un certain nombre de personnes, donc dans le centre ils disent famille, mais des personnes portugaises, donc soit des retraités logés en HLM, soit des personnes plus jeunes qui sont en général des enfants de migrants portugais des années 60-70, mais qui sont arrivés plus tard et qui ont aussi pu accéder au logement social. Et ensuite, quelques personnes rencontrées par interconnaissance, par d'autres biais. Donc alors, comment s'y prendre pour étudier les trajectoires sociales de ces femmes portugaises qui appartiennent à différentes fractions des classes populaires, aussi bien au Portugal qu'en France. C'est une démarche qui est vraiment fructueuse quand on réfléchit à la comparaison entre les pays, entre les classes sociales d'un pays à l'autre, mais qui est assez complexe. Donc, je vais dire des choses qui ont déjà été dites, mais de fait, elles sont vraiment compliquées à résoudre. Ça demande de mobiliser tout un ensemble de connaissances sur les espaces de départ et d'arrivée, à la fois à l'échelle nationale, à l'échelle locale. Donc, j'essaie de mobiliser tout un ensemble de travaux que j'ai connus grâce aux collègues de Porto ou par d'autres recherches sur le Portugal, sur différentes régions. Il y a tout un ensemble de travaux sur l'émigration qui ont été réalisés au Portugal, sur l'immigration portugaise qui ont été réalisés en France. Un certain nombre de données, mais malgré tout, ce n'est pas toujours facile d'avoir la finesse qu'on voudrait pour faire ce travail. Ensuite, une autre question très classique aussi, mais que je trouve vraiment compliquée, c'est savoir avec qui on va comparer ces migrants. Est-ce qu'il faut les comparer avec leurs homologues sociaux qui n'ont pas immigré au Portugal, avec les classes populaires de la commune dans laquelle ils résident en France, avec des migrants d'autres origines, avec d'autres générations de migrants portugais, avec des migrants de la même génération mais qui ont adopté plutôt des formes temporaires comme le travail détaché de migration, etc. etc. Il faut aussi intégrer, j'y reviendrai, toutes les comparaisons que les migrants eux-mêmes font entre leur propre situation et plein d'autres. Et essayer de saisir une approche individuelle, une approche par ménage ou par groupe familial. Donc, c'est un travail assez complexe. Je trouve qu'il est d'autant plus complexe que si on est attentif aux petites différences, même aux pas si petites différences, on se rend bien compte qu'il y a une grande diversité de situations. Mais les représentations de l'immigration portugaise en France, en tout cas, tendent vraiment à l'homogénéiser. Et si on entre par les données statistiques, de fait, on a aussi affaire souvent à des données qui homogénéisent beaucoup les situations. C'est majoritairement, statistiquement parlant, et en tout cas dans la représentation, une immigration peu qualifiée, venue des zones rurales du Nord, qui se tournent vers des emplois de la construction et du ménage dans les grandes villes ou dans la banlieue des grandes villes en France. Bien sûr, on découvre très vite tout un ensemble très, très important de différences entre les générations, entre les hommes et les femmes, suivant les positions de départ dans la famille d'origine, le contexte d'origine, etc. etc. Si on prend la question de l'analyse des trajectoires professionnelles, c'est très difficile, je trouve, d'arriver à saisir si la migration entraîne une ascension, un déclassement, une stabilité professionnelle pour ces femmes. Je parlerai pas des hommes, même si c'est aussi compliqué pour et qu'il y a d'autres éléments. Mais je vais me centrer sur les femmes. Donc pour ces femmes, pour essayer de comprendre, d'analyser leur trajectoire, il faut arriver à comprendre les hiérarchies à toutes les situations possibles pour elles, les situations possibles professionnelles possibles pour elles dans leur région d'origine. Donc souvent dans le nord du Portugal, mais pour certaines dans la région de Lisbonne. Donc entre le travail agricole, le travail comme employé domestique dans des familles de classe moyenne ou supérieure. Les travaux comme ouvrière d'industrie, qui est en fait très fréquent pour les personnes arrivées récemment. Les personnes elles-mêmes hiérarchisent ces situations, en font une analyse. On peut ensuite tenter d'objectiver ça, mais c'est assez complexe. Et de même, en France, donc pour ces femmes, les situations accessibles, au moins pendant un premier temps de leur arrivée, c'est des emplois dans le ménage ou dans le nettoyage. Pour tout un ensemble de raisons, mais qui tiennent beaucoup à l'embauche par interconnaissance. Mais donc entre le ménage à domicile chez des particuliers, le ménage dans des immeubles, la position de gardienne, mais elle est rare pour les personnes que j'ai rencontrées, le faire du ménage, on dira du nettoyage dans des bureaux, dans des espaces publics, dans des établissements publics comme des écoles. Il y a tout un ensemble de critères qui font que la hiérarchie professionnelle n'est pas si simple à établir. Un autre point de complexité dans cette analyse, c'est la prise en compte de la scolarisation. Donc, c'est un point qui a longtemps été abordé aujourd'hui, mais je l'aborde parce qu'il est vraiment central. Donc, comme ça a été déjà dit, le système scolaire portugais a connu des transformations très rapides depuis les années 60. Et donc, il faut être attentif non seulement à des petites différences. Donc, je prends un exemple entre deux femmes qui avaient à peu près le même âge, qui étaient nées dans les années 50. Une qui avait arrêté l'école à 3 ans, une autre qui avait pas 3 ans, après 3 ans de scolarité, une autre qui avait eu 3 ans de scolarité dans son village, mais qui s'était payé des cours du soir pour obtenir la 4e année quand elle travaillait comme bonne dans une famille de la bourgeoisie de la petite ville du coin. Les deux situations ne sont pas comparables. Vu de France, on ne voit évidemment pas la différence statistiquement, mais même pour sociologiquement, ça ne rentre pas dans nos catégories. Pour les plus jeunes, il y a aussi plein de choses intéressantes. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens des années 70 ou au début des années 80, donc qui racontent la construction des collèges dans leur zone de résidence, ceux qui ont étudié par la télé, TV Schola, donc toutes ces formes de scolarisation différentes, puis la durée de scolarisation qui changeait quasiment tous les ans. Donc il y en a une qui me raconte, ben voilà, moi j'ai fait mon mari qui a donc 2 ans de plus qu'elle, il a fait 6 ans d'études, moi d'école, moi j'en ai fait 7, ma sœur elle en a fait 9, mon petit frère il en fera 12. Et tous disent, moi, j'aime pas l'école, j'en ai fait le moins possible, mais malgré tout, leur durée de scolarisation va être très variable. Donc, je ne rentre pas plus dans les détails, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant et ça a des conséquences très importantes, évidemment, sur les rapports avec les institutions publiques, mais aussi avec les employeurs. Deux pistes, pour l'instant, que j'essaye de suivre, enfin, qui sont très liées, hein, vous allez voir, pour essayer d'avoir pris sur cette analyse de trajectoire, puis de m'y repérer et de faire des différences entre les situations des personnes, enfin en tout cas de les organiser, ces différences multiples, c'est d'entrer par la question du rapport aux institutions et un corollaire qui est donc les dimensions ethno-raciales dans la manière de se positionner, qui est liée aussi avec la question des rapports aux institutions. Donc cette thématique des rapports aux institutions, donc aux institutions publiques, il est apparu très très rapidement dans les entretiens. Je voulais l'aborder, mais en fait, en général, je n'ai pas à le faire parce qu'il arrive de lui-même. L'expérience des rapports aux administrations, elle est très très présente dans les récits, j'imagine, des migrants dans toutes les situations, mais aussi pour ces migrants venus du Portugal, même récemment. Elle prend des formes très variées. Donc il y a les administrations de la migration, la protection sociale, les écoles, les impôts, etc. etc. Elle fait l'objet, il y a sans arrêt des comparaisons entre la France et le Portugal, entre leur propre expérience et celle d'autres migrants ou de Français, etc. Ou d'autres, enfin, et donc ça rejoint aussi le fait que ces relations sont très importantes pour les classes populaires en général, même non-migrantes. Cette importance de la question des rapports aux institutions, on peut faire l'hypothèse qu'elle renvoie pour ces Portugais et Portugaises installés en France à la nature de l'histoire des rapports aux institutions des classes populaires au Portugal. Donc ça a déjà été rappelé, mais une histoire très difficile pendant la période de la dictature, mais des relations difficiles encore aujourd'hui pour d'autres raisons, avec une distance sociale forte aux administrations. Cette question des rapports aux institutions, dont souvent, pas toujours, mais souvent quand même marquée par des expériences négatives, elle est liée à des expériences de confrontation institutionnelle dans la migration. Donc pour les quelques personnes les plus âgées, c'est le récit ou la mémoire des départs dans la clandestinité. Mais pour d'autres pas si âgées, c'est l'expérience des refus de carte de séjour à la fin des années 80 ou au début des années 90, alors même que le Portugal venait d'être admis dans la CEE, des récits de violences symboliques à la préfecture, mais aussi au consulat du Portugal, et tout un ensemble de cas liés aux problèmes liés à l'assurance maladie, des situations qui n'étaient pas du tout en plus anticipées par les personnes venues dans la période récente, puisque la croyance dans le fait que dans l'Union européenne, la libre circulation signifie qu'on a des droits partout, fait qu'on ne s'attend pas du tout à toutes les difficultés qu'on rencontre pour le transfert de droits de sécurité sociale en particulier, qui est beaucoup plus difficile, notamment pour les femmes qui n'ont pas des contrats stables à l'arrivée que pour les hommes. Donc les entretiens donnent à entendre un éventail assez large de pratiques et d'attitudes morales dans les rapports aux institutions. Ça renvoie à des ressources sociales différentes, des styles de vie différents. Ça permet de comprendre l'importance des socialisations professionnelles ou résidentielles différentes. J'essaie de réfléchir à distinguer un certain nombre de situations. Donc là, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais il y a au moins trois situations qui se détache. Alors, il y en a une que je n'ai pas étudiée, mais c'est en discutant avec Virgilio et d'autres collègues, Laura et Vanessa Porto, que je dégage ce pôle. C'est ce pôle des travailleurs détachés, donc qui ne sont pas du tout indifférents à la question des rapports aux institutions, même si c'est leurs employeurs qui traitent la plupart des démarches. Mais dans le choix, entre guillemets, de cette forme de migration temporaire, il y a l'idée que ça vaut la peine d'être travailleur détaché parce qu'on va gagner beaucoup plus qu'au Portugal, mais aussi parce que la famille reste au Portugal et que les droits sociaux restent préservés au Portugal. On reste immatriculé à la sécurité sociale portugaise et de cette manière-là, on ne se considère pas complètement comme des émigrants. Donc il y a une dimension symbolique forte là-dedans. Dans mon enquête, il y a deux autres pôles qui se dégagent. Un pôle qui sont des salariés du privé, donc presque tous, donc des hommes qui travaillent dans le bâtiment et des femmes qui travaillent dans le ménage ou dans le nettoyage dans le privé, qui vont valoriser le fait qu'ils gagnent que la migration leur a permis d'améliorer leurs conditions de vie et qui vont se comparer au salaire au Portugal, mais aussi parfois, assez souvent, au salaire qu'ils pourraient gagner dans le secteur public. Hein, c'est le cas notamment pour les femmes. Et certaines vont dire qu'elles préfèrent continuer à travailler comme femmes de ménage ou dans le nettoyage, pour certaines qui sont par exemple chefs d'équipe dans le nettoyage, plutôt que de travailler dans le public, et elles développent un raisonnement sur ces avantages économiques. Même si en général, dans l'entretien, elles vont aussi déplorer de finalement avoir moins de droits sociaux que ce dont elles pourraient bénéficier en France. Et on pourrait dire que c'est un pôle peut-être plus économique au sein de ces ménages populaires portugais. Le cas des femmes travaillant comme devenues fonctionnaires, puisque c'est possible depuis 2006, donc dans ces municipalités qui sont agents d'entretien dans les écoles publiques, et un peu l'autre pendant. Donc là, elles vont valoriser le fait d'avoir des salaires plus bas que d'autres femmes portugaises de leur connaissance qui travaillent dans le privé, mais plus de droits, donc j'énumère pas, mais des droits sociaux divers, et plus de temps pour éduquer leurs enfants aussi. Donc il me semble qu'on peut vraiment dire qu'elles constituent un pôle plus culturel dans l'ensemble de ces ménages. Même si elles ont aussi, dans les comparaisons qu'elles font avec les autres, le sentiment d'être mal payées. Parfois, ça ne leur permet pas d'acheter ni en France ni au Portugal. Donc, c'est une composante importante. Donc, dans ces raisonnements entre droit et argent et les comparaisons entre situations possibles, une dimension qui apparaît souvent, mais pas systématiquement, c'est la comparaison avec des migrants d'autres origines et la mobilisation dans la manière de se positionner socialement d'une dimension ethno-raciale. Donc cette dimension, elle n'est pas complètement surprenante, évidemment. Elle n'est pas apparue donc systématiquement. Ce qui apparaît presque systématiquement, c'est le fait de mobiliser ce que Olivier Schwartz a appelé la conscience sociale triangulaire, c'est-à-dire de se démarquer de fractions plus précaires des classes populaires, donc qui vont être désignées comme des assistés, des groupes qui profitent des aides sociales, et donc on se présente comme des gens travailleurs, donc en l'occurrence ces femmes comme des travailleuses qui n'attendent pas de l'aide de l'État, qui se débrouillent par elles-mêmes, et donc elles vont se démarquer des classes populaires plus précaires, mais ce schème, je crois, est mobilisé aussi au Portugal. Et là, va intervenir dans un certain nombre de cas, donc une dimension ethno-raciale, dans le fait que ces assistés, ces plus précaires, vont être désignés comme les mauvais immigrés par opposition aux Portugais, les bons immigrés. Donc cette mobilisation des stéréotypes sur les Portugais, hein, donc je ne reviens pas, Margot, à rappeler tous les travaux qui ont montré la construction étatique et par les entrepreneurs de ces stéréotypes, elle est mobilisée quand même assez fréquemment, donc les Portugais bons immigrés aussi parce qu'ils n'attendraient pas d'aide de l'État et ne profitent pas du système social par opposition aux Arabes, aux Africains ou aux Noirs, souvent les gens disent d'ailleurs le plus souvent. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'un certain nombre de mes enquêtées, elles se démarquent assez activement de ce discours et de ce stéréotype, parce que c'est pour elles un stéréotype, le stéréotype des Portugais racistes, qui est pour elles stigmatisant, et dans leur façon de parler, des assistés, parce qu'elles le font, elles prennent bien soin de dire qu'il ne s'agit pas spécifiquement des Africains, enfin des Noirs ou des Arabes, qu'au Portugal aussi, il y a plein de gens qui profitent du système. Donc avec plein d'exemples extrêmement élaborés, elles m'ont décrit des stratégies très intéressantes. Et donc je pense que c'est aussi une piste pour saisir indirectement des différenciations internes aux classes populaires, à la fois en France et au Portugal, et des ressources économiques et culturelles différentes. Donc je m'arrête là, je vois que j'ai été bien long.
De Margot Delon, qui était pas mal pour avoir un propos synthétique sur le caractère particulier de cette migration portugaise en France, qu'on voit alors le cas, la monographie sur les gardiennes et les concierges d'immeubles, c'est un cas monographique par rapport à une spécialisation professionnelle, et dans le papier de Margot, elle a peu insisté, mais en fait les données statistiques qu'elle mobilise au début de son texte écrit, donc les données produites par l'enquête Théo, montrent bien cette particularité à la fois à cette échelle statistique-là et dans certains cas spécifiques, comme celui des gardiens d'immeubles, peuvent permettre de faire de l'immigration portugaise un espèce de cas particulier de classe populaire, avec ce que tu as dit, mais je pense que ça mérite d'être davantage souligné encore, parce qu'il y a les données pour le faire, sur une catégorie qu'on identifie par l'origine. Donc Théo, c'est les personnes d'origine portugaise, donc les personnes dont les parents sont des immigrés portugais en France métropolitaine, qui ont une proportion de diplômés du supérieur extrêmement faible, une proportion d'appartenance à la CSP des cadres est également extrêmement faible, la proportion de diplômés du supérieur est inférieure à celle des descendants des migrants algériens, la proportion d'appartenance à la CSP des cadres est à peu près la même, autour de 4-5%. Évidemment inférieure à celle de la population dite majoritaire, c'est-à-dire la population qui n'a pas d'origine migratoire en France métropolitaine. Et cependant, donc c'est le chiffre qu'elle a donné, mais il faut le replacer en contexte, ils sont donc 51% à être propriétaires en France. Et ils sont aussi, il y a une grande proportion d'entre eux aussi à être propriétaires au Portugal, mais cette proportion est plus faible. Donc ils sont propriétaires en France de façon plus importante qu'au Portugal, et c'est un taux qui est proche de celui de la population majoritaire et le double à peu près de mémoire de celui des migrants d'origine algérienne. Donc pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que dans la sociologie des classes populaires telles qu'elles existent en France, et là je pense que c'est une... Alors je reviens sur mon dada de la propriété dont je vous ai déjà parlé ce matin, je pense que c'est un élément important à prendre en compte pour la comparaison des classes populaires entre ces deux pays à cause de cette place de la propriété, puisque la propriété, le patrimoine d'une façon générale et la propriété foncière et immobilière en particulier, elle est très très minoritaire dans les classes populaires françaises à l'échelle globale. Du coup, avoir cette population migratoire qui appartient aux classes populaires massivement de par ses appartenances en termes de CSP, c'est-à-dire ils appartiennent massivement au CSP des ouvriers, des employés, et par leur patrimoine, bah, ils se rapprochent plutôt des cadres, quoi, métropolitains. Donc, c'est cette espèce d'oxymore, il me semble, qui fait la particularité de cette migration. Alors, c'est sans doute à moduler avec les générations beaucoup plus récentes de migrants portugais, donc ceux qui arrivent dans les années 2000, où sans doute cette place de la propriété est différente. Du coup, ma discussion, elle était en grande partie orientée sur un peu l'explication de cette espèce de mystère au regard de la sociologie des classes populaires françaises où bah, si on est classe pop, on n'est pas propriétaire, quoi, ou de façon extrêmement marginale. Je voulais poser des questions donc sur si vous pensez que c'est possible d'enquêter davantage sur les origines sociales de ces migrants pour voir quelle place prend la propriété dans leur famille et dans les générations des ascendants et quelle socialisation en fait ils ont au fait d'être propriétaires, parce qu'il me semble que quand on parle par exemple les expressions de projet migratoire ou de stratégie conjugale ou de, en fait ils se comprennent, pour moi ils se comprennent par rapport à cette espèce de norme de l'accession à la propriété et qui du coup je pense peut également permettre peut-être, tout ça ce sont des hypothèses évidemment, dans quelle mesure vous pensez que ça peut permettre de penser le rapport à certains types de travail considérés comme extrêmement subalternes, donc celui de gardien, de femme de ménage, ou d'autres emplois salariés, mais l'une des particularités de l'emploi des Portugais en France, c'est donc ces positions dans des emplois de service. Et on voit bien comment, quand vous dites, par exemple, Dominique Vidal, vous dites, c'est un peu une évidence, les Français, quand les Français tenaient les loges dans les années 50-40, leurs enfants, dès qu'ils ont pu avoir une situation professionnelle meilleure, sont partis, c'est-à-dire ouvriers dans l'industrie, par exemple. Personnellement, je me demande si ouvriers dans l'industrie, enfin, en fait, en quoi c'est meilleur ? C'est-à-dire, il est évident qu'ils ont considéré que c'était meilleur, puisque ils ont fait le choix à un moment donné de quitter les loges et d'aller dans l'emploi ouvrier industriel ou employé, en étant convaincus de ça, puisqu'on ne les a pas mis dehors des loges a priori. Mais du coup, derrière, il y a une conception de qu'est-ce que c'est qu'une situation professionnelle enviable. Et peut-être que dans les socialisations familiales des migrants portugais, de ceux qui arrivent dans cette génération-là, parce que je pense que ça change après, et ce que tu dis aussi par rapport au rapport à la sécurité sociale est très parlant de ça, je pense, Yasmine, c'est que c'est une socialisation dans un milieu rural qui peut-être affaiblit la sensibilité à ce type de position de service, de femme de ménage, gardien d'immeuble, qui sont quasiment imperméables à ce type de position de par la socialisation paysanne et de par la primauté du projet patrimonial. Tout ça, c'est des hypothèses, mais c'est pour vous demander si vous avez des éléments en termes de socialisation familiale. Et par rapport à ce que tu disais, j'avais des questions précises par rapport aux trois types que tu dégages, Yacine, parce que, mais ça vaut aussi pour vous, parce que vous avez deux communications dans lesquelles vous avez une multiplicité de générations, c'est-à-dire des gens qui sont arrivés il y a très longtemps, des gens qui sont arrivés plus récemment. Et du coup, est-ce que vous pouvez repérer des différences justement par rapport à la socialisation et à l'origine sociale selon le moment auquel ils sont arrivés? Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, c'est peut-être plus de l'ordre de la remarque, mais là c'est parce que j'improvise par rapport à ce que disait Yasmine, ce que tu disais par rapport au rapport aux institutions et sur ça par exemple là... parce que dans la génération des gens plus anciens qui ont migré, c'était aller à l'étranger qui permettait d'avoir des droits, en fait. Et donc, je redouble ce que tu disais sur le fait que c'est compliqué, parce qu'il y a des échelles de temps extrêmement resserrées, finalement, sur des phénomènes extrêmement structurels comme l'existence de la scolarisation, etc. etc.
Je vais, avec une socialisation portugaise, je vais poser une question à chacun pour être poli, mais au-delà de ça. Pour Dominique, est-ce que les femmes qui viennent travailler dans les années 60-70, elles viennent seules? Ou est-ce qu'elles viennent dans le cadre de ce qu'on appelle communément le regroupement familial? Et après, est-ce que le logement en loge, ça n'implique pas des tensions familiales? C'est-à-dire que c'est un espace contraint, c'est un emploi du temps contraint également. Et pour les époux, est-ce qu'il n'y a pas parfois, certes, c'est un logement dans Paris, mais parfois, pour certains emplois, ce n'est pas fantastique d'habiter dans le 16e arrondissement, si on travaille en banlieue. Et donc, est-ce que ça amène des négociations au sein des familles. Ensuite, pour Margot, sur effectivement cette mémoire, on va dire, aseptisée de l'histoire de l'immigration portugaise, est-ce que dans tes entretiens, est-ce que parfois vous avez évoqué avec eux les films de José Vieira, par exemple, qui est un des rares documentaristes à avoir travaillé sur l'histoire des bidonvilles, notamment à partir de Massy, mais pas seulement sur... Et c'est une vision très différente de celle qui est présentée et qui est communément admise sur le héros Talamoni qui nous a aidés, etc. Est-ce que dans la thèse, je me rappelle qu'il y avait une référence au livre de Marie-Christine, Volovitch-Chevarès, et avec une certaine distance vis-à-vis de l'ouvrage, est-ce que ça arrivait ou pas avec les documentaires de José Vieira? Et enfin, pour Yasmine, dans l'enquête sur l'association donc, qui fait du folklore, j'imagine, qui fait du foot également, quelle est la place éventuellement des Portugais d'origine capverdienne ou des Capverdiens tout court, je ne sais pas comment ils se... Est-ce qu'ils font partie de ces activités? Et notamment comme les associations folkloriques ou les clubs de football ont souvent tendance à représenter la communauté portugaise, localement, etc., avec tout ce que ça implique, est-ce que ça fait que soit les Capverdiens, on les appelait comme ça rapidement, n'y vont pas, ou est-ce qu'ils sont intégrés, font partie, et jouent du tambour et des différentes danses folkloriques? Merci.
Merci. J'ai une question pour Margot. Le processus de blanchissement que tu décris, où il y a une espèce de dissolution des catégories raciales que pourront constituer une différence entre les Portugais et les natifs. C'est intéressant parce que c'est l'exact opposite du processus que nous avons rencontré nous-mêmes en Espagne et qui était décrit par exemple pour Matthew Jacobsen pour les Irlandais dans les États-Unis ou par Everett Hughes pour les populations juives dans l'Allemagne nazie. C'était la constitution d'autres tonalités de blanches. Et cela démontre, je pense que c'est une contre-preuve très forte, ton travail, que en fait, ces catégories-là sont très encastrées dans le contexte de son articulation et dans le rapport de pouvoir plus large où ils s'encadrent. Et si tu pourrais commenter ça, pourquoi nous assistons ici au blanchissement des Portugais, en tant que, par exemple, en Espagne, nous notons une constitution d'une autre couleur de blanche pour le portugais. Par exemple, même le portugais se désignant à eux-mêmes comme le noir, le mort que travaillons là. Et c'est intéressant de voir. Et je pense que l'autre question pour Yasmine. Il y a des travaux très intéressants, et même Victor a publié déjà sur ces sujets-là, de ces représentations folkloriques sur les immigrants portugais en France. Il y a beaucoup de matériaux sur ça, et il y a bien sûr ces images homogénéisantes et caricaturales de la concierge, par exemple. Mais pour moi, ce sera intéressant de savoir s'il y a des stratégies de distanciation, de distinction qui sont mobilisées par les immigrants devant des gens qui sont restés à Portugal. Une espèce de blame gossip, comme Norbert Elia parle. S'il y a quelque chose que expliquer son condition d'émigré par comparaison devant des autres femmes qui ont resté au Portugal. il y a des opinions sur les autres compagnons de cohorte qui sont restés là ou... Et je pense que la ultime, c'est pour Dominique, mais Yasmine aussi pourrait dire quelque chose. Et je pense que c'est un avantage de ces profondeurs historiques de votre travail, surtout Dominique. Il y a avant une certaine manière d'accéder à le marché des concierges, surtout soutenu un réseau informel. Aujourd'hui, il y a quelques places, quelques rôles que les entreprises d'intermetteurs jouent, comme ça passait dans la construction, où le réseau informel sont aussi complémentés avec l'action d'agences de travail temporaire, avec des autres intermetteurs professionnels. Nous assistons à ça. Est-ce qu'une collègue à nous, Bianca Tamé, a décrit une situation très intéressante dans l'Afrique du Sud où le réseau traditionnel et informel de femmes de ménage du Zimbabwe ont été substitués pour des stratégies hautement professionnalisées des agences de travail temporaire. Et cela a créé des différences très importantes dans la femme de ménage d'avant avec les femmes de ménage d'aujourd'hui.
Alors, moi, je vous remercie parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Et je me demandais pour les processus de blanchiment, il y avait des différences hommes-femmes et puis des différences générationnelles. Voilà, comment est-ce qu'on se distingue des nouveaux, éventuellement, et puis peut-être d'autres groupes migrants. Et pour la question des comparaisons des statuts, comment est-ce qu'on peut trouver ça. Je me demandais, quand les gens se comparent, donc c'est pour Yasmine, quand ils se comparent avec des situations qu'ils auraient pu avoir au Portugal ou avec des gens qui sont restés au Portugal, comment est-ce qu'ils font pour traduire et pour faire reconnaître leur statut acquis en France et pour que ce soit intelligible, en fait, les questions de traduction. Merci.
Merci pour la discussion et pour les questions. Je vais m'efforcer d'y répondre synthétiquement. Sur la question de l'accès à la propriété, je pense que c'est bien plus que l'accès à la propriété. Je pense qu'il faudrait parler des stratégies immobilières des Portugais et de leurs descendants qui sont tout à fait frappantes. En France, et je ne connaissais pas le pourcentage de 51% qui vaut pour l'ensemble de la France. Je pense qu'il faudrait, métropolitaine, je pense qu'il faudrait ce taux de propriétaires pour Paris et la région parisienne, où le pourcentage de locataires est inférieur et où réside la moitié de la population d'origine portugaise en France. Et avec cette donnée, on s'apercevrait que peut-être, dans cette zone de forte concentration de la population d'origine portugaise, on aurait un taux de propriété peut-être plus, c'est une hypothèse, hein, mais je ne le connais pas, le statisticien ça va faire, peut-être plus élevé que celui de la population générale, toutes ces CSP confondues. Je sais qu'il s'agit de stratégie immobilière parce que c'est bien plus que la volonté de se protéger d'un possible licenciement en accédant à la propriété, en ayant une possibilité de repli. C'est extrêmement fréquent. Et bon, les premières générations achetées au Portugal et se retrouvent un peu dépourvues aujourd'hui au moment de la retraite et quand les liens avec le village se sont distendus. Aujourd'hui, les jeunes descendants de Portugais qui sont nés en France accèdent très rapidement à la propriété de la manière suivante, en épargnant pendant les premières années de quoi avoir l'apport personnel qui permet de négocier un prêt et ensuite en louant le logement qui leur permet de le rembourser, en plus en revendant ce logement pour acheter une maison dans l'Essonne où ensuite ils iront passer les week-ends. Et au fond, il faudrait faire sur les Portugais et les descendants de Portugais un type de travail comme celui qu'a fait Anne Lambert de manière plus générale en se centrant sur cette population, les liens qu'elle a avec les banques françaises et portugaise, et dans le cas des banques françaises et des organismes de crédit, on rencontre aussi beaucoup de descendants de Portugais qui ont des BTS et des Portugais et qui sont dans des métiers d'intermédiation. Donc, est-ce qu'on retrouve le même rapport à la terre, l'idée qu'il faut constituer un patrimoine ? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de tout à fait spécifique et intéressant à creuser, où la question de la culture, évidemment, non pas de manière culturaliste, mais de, aujourd'hui, ce qu'on appelle la culture en action, doit être mobilisée. Est-ce que c'était mieux de partir comme ouvrier quand on était français? Oui, parce qu'on avait l'impression d'une société en mouvement. On échappait à des conditions de logement terribles, aujourd'hui encore, des loges de 15-17 mètres carrés, y compris dans les plus beaux immeubles bourgeois du 16e arrondissement. Ça existe. Quand l'immeuble a été construit avant 1890, on a 15-17 mètres carrés et pas plus. Et c'était déjà une forme d'échapper à cette condition-là, d'autant plus forte que, et on le voit bien quand on lit la presse corporative et syndicale, a toujours plané, a longtemps plané, c'est un thème moins présent aujourd'hui, sur les concierges, l'image du domestique, et s'est toujours posé à leur question la question de savoir s'ils appartenaient ou non au monde ouvrier. Est-ce que c'était vraiment des ouvriers comme les autres? La CGT répond dans les années 37 en disant ce sont des camarades, des ouvriers comme les autres, mais dans les faits, bon, c'est pas des vrais ouvriers, on les soupçonne d'être toujours du côté des propriétaires, des patrons, d'être un peu comme les domestiques. Donc quitter les loges, c'était aussi s'inscrire dans le monde ouvrier, et à l'époque où le monde ouvrier avait évidemment une autre consistance et une autre signification que ce qu'il a aujourd'hui. Sur l'origine sociale, selon le moment, je dirais qu'entre la fin des années 50 et le début des années 70, il y a une certaine homogénéité. C'est vrai que le Portugal, à l'époque, est relativement... il bouge, mais relativement congelé par Salazar. La plupart des gens qui vont devenir concierges viennent du nord du Portugal, Lato Sensu. Quelques-uns de Madère aussi. Et là, je fais écho à la question qui a été posée et qui me permet de rebondir sur ce qu'a dit Margot Delon. Je trouve que j'ai fait il y a quelques années des recherches sur les Mozambicains en Afrique du Sud. Là, il y a vraiment eu des blancs honoraires, c'est-à-dire qu'il fallait faire monter le taux de blancs en Afrique du Sud pour ne pas être débordé par la population noire. Les protestants sud-africains se sont résolus, avec des négociations difficiles avec Salazar, à faire venir des gens de Madère, c'est-à-dire pas les Portugais les plus, disons, les plus valorisés au Portugal, mais ça a augmenté le taux des blancs. Alors là, ça a été des blancs honoraires pour de vrai, c'est-à-dire des catholiques, pas la peau, pas si blanche que ça, mais bon, dans l'Afrique du Sud, de l'apartheid qui commençait à s'effondrer, ça permettait de combler un manque. Et d'ailleurs, il y a eu des réussites économiques prodigieuses en Afrique du Sud, dans un pays de ségrégation. Question les tensions liées au logement. Bien évidemment que de vivre en couple ou en famille dans des espaces limités et sans confort, bien souvent, crée des tensions. Je dirais qu'il y a deux types de tensions. Il y en a une qui concerne les couples quand les enfants commencent à grandir, qui tient lieu à leur intimité, qui peut être observée par les enfants au bout de quelques années, quand ceux-ci se trouvent témoins de ce que les psychanalystes appellent la scène primitive. Et là, ça pose un problème de résider dans une loge. Alors, c'est à ce moment-là, bien souvent, on va aujourd'hui, même chez les jeunes, hein, les gens qui ont 30-35 ans, on va commencer à penser à acheter un pavillon dans l'Essonne où il y aura différentes chambres pour bien séparer les parents des enfants. Mais je dirais que la principale tension que j'ai observée, c'est pas tellement à ce moment, c'est plutôt au moment où l'homme se retrouve à la retraite ou en invalidité et là tourne en rond dans la loge. Parfois, bon, on peut tomber dans l'alcoolisme et tout ça. Et là, c'est terrible. Ça conduit à des séparations, pas forcément à des divorces, mais à des séparations de corps. C'est-à-dire que l'homme va aller passer une partie du temps au village, au Portugal, parce que la vie conjugale est trop tendue entre la femme qui travaille et l'homme qui est au maison. C'est là où il y a des tensions. Et le réseau informel reste très fort. Là où il n'y a que, je vais signer le papier, des recrutements, c'est dans les grandes résidences aujourd'hui. Il y a des formations, il y a une école des gardiens qui est mise en place par un grand cabinet de gestion. Il y a un CAP des gardiens, mais qui canalise beaucoup sur le logement social. Mais aujourd'hui, dans les grandes résidences, il y a des formations spécifiques, notamment dans les immeubles les plus modernes, récemment construits, ce qu'on appelle les immeubles connectés, où on peut déclencher le chauffage longtemps, où là, il y a de la formation professionnelle, il y a une recherche de connaissances, mais bien souvent, la formation s'est faite sur le tas ou dans le cadre de formations qui sont aujourd'hui obligatoires même si tous les syndics n'y envoient pas leurs concierges, mais il y a des formations à la sécurité, au changement des ampoules, au repérage de problèmes dans les chaudières. Voilà.
Merci pour ces réactions et questions. Alors, concernant François, ce que tu disais sur la socialisation au statut de propriétaire, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas encore beaucoup de choses, mais pour le coup, je pourrais t'en dire plus dans quelques années, parce que je démarre là un projet de recherche sur la propriété immobilière locative, et là, la question de la socialisation de la propriété, notamment chez les migrants portugais, sera quelque chose que j'aborderai de façon plus centrale. Néanmoins, pour ce que j'ai vu dans la thèse, je pense que, en tout cas en France, il y a vraiment un truc de, c'est des choses qu'ils ont vu leurs parents faire, y compris dans le bidonville où il n'y avait pas de, il n'y avait pas d'actes de propriété légaux, mais il y avait quand même une distinction entre les propriétaires et les locataires, avec une première génération d'habitants qui sont arrivés au début des années 50 et qui du coup ont été les premiers arrivés, les premiers servis, et ensuite loger ceux qui sont arrivés plus tard dans des conditions plus difficiles. Donc il y a cet écart générationnel. Puis il y a tout ce qui se passe aussi au moment de la fin des bidonvilles, où plutôt que d'accéder à des logements sociaux, ce qu'on propose pas à Nanterre, mais qu'on propose bien souvent à Champigny, les familles préfèrent acquérir à plusieurs et rénover des pavillons dégradés ou des terrains pour construire des trucs qu'ensuite ils louent, etc. Donc je pense que ce type de trajectoire, en fait, en soi, ça socialise, quoi. Après, il faudrait creuser plus ce qui se passe dans le contexte de départ pour comprendre d'où ce rapport-là vient. Mais en tout cas, déjà en France, il y a des choses qui jouent sur le rapport à la propriété. Pour les supports de mémoire, les films de José Vira n'ont jamais été mentionnés, donc ce sera intéressant de voir ce qui se passe maintenant que je pense qu'ils sont un peu plus diffusés. Après, j'ai arrêté de suivre aussi au moment ce qui se faisait dans l'association, donc c'est possible qu'ils aient été plus diffusés et ce serait bien de retourner interroger les habitants et ceux qui participent à cette association pour voir ce qu'ils en pensent. Bon, par contre, un film qui a été plus mentionné, c'est en plus du bouquin de Marie-Christine Wolff-Jarret, c'est La Cage Dorée. Ça, pour le coup, ça a été et ça dit aussi des choses sur le rapport consensuel à la mémoire, mais qui est très lié à cette fraction aussi et qui est pas. Je pense qu'il faudrait, et ça conduit à la question sur le blanchiment. Je pense que les situations de conflit et de résistance que moi finalement j'ai assez peu rencontrées dans ma thèse, à part par l'intermédiaire des archives résistance au moment du relogement, je pense que c'est vraiment des situations extrêmement heuristiques en fait pour voir comment les catégories évoluent quand il y a de la résistance et quand il n'y a plus de consensus et du coup ça renvoie à ce que tu disais sur les rapports de pouvoir je pense que ça pour le coup j'invente rien, c'est ce que montre notamment Victor dans un chapitre paru en 2005 si je me souviens bien, qui s'appelait Immigration favorisée et qui était vraiment hyper utile, qui montrait vraiment, et moi c'est ce que je vois aussi dans les archives, c'est à quel point en fait le contenu de la catégorie naît du contraste avec la situation coloniale et avec la venue des Algériens qui préoccupent les hauts fonctionnaires français. Et que en fait, les Portugais sont très très mal connus dans l'après-guerre en France, mais c'est parce que il y a cette perception d'une menace que, par contraste, on accorde aux Portugais d'autres qualités en se disant ça va être à peu près comme l'immigration européenne avant eux. Donc, pour le cas de la France, je pense que ce moment de colonisation puis décolonisation et même l'importance que ça continue à avoir aujourd'hui, c'est vraiment déterminant pour comprendre la place des Portugais, mais que encore une fois les situations de conflit et de tension, de résistance sont intéressantes pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça c'est un cas vraiment marginal, mais je me souviens qu'il y avait eu un moment des départs vers la Syrie, il me semble qu'il y avait eu un Portugais converti de Champigny, et je pense que c'est aussi ce genre de cas un peu limite qui peut nous permettre de voir comment les catégories du coup change en fonction des rapports de pouvoir en jeu.
Donc je vais faire très 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 vite pour dire que l'association de danse et de musique folklorique, je n'ai pas rencontré de Capverdien, je n'en ai pas vu pendant les soirées auxquelles j'ai assisté. Par contre, il y a une autre association dite de Capverdien, mais dans laquelle je ne suis pas encore allée. C'est une commune où il y a une présence portugaise ancienne. Il y a plusieurs associations portugaise. Donc le foot a deux, il y a plusieurs associations de foot. Il y a cette, donc il y a, bon, il faudrait creuser, mais pour l'instant je peux pas en dire tellement plus. Par contre, c'était quand même une, même si je savais théoriquement que cette présence capverdienne existait en France, c'était quand même une surprise pour moi de la rencontrer aussi importante sur ce terrain. Et j'espère pouvoir continuer à rencontrer des gens d'origine capverdienne et comprendre. Donc certains arrivent par le Portugal, une petite minorité, semble-t-il, arrive par le Sénégal en France. Bref, c'est, Victor m'a dit que ça avait été bien étudié, donc je vais aller lire tout ça. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Et de fait, ça crée toujours le trouble. Moi, quand je suis allée dans les cours du soir de français, j'ai vu les formateurs, j'ai dit, est-ce qu'il y a des personnes de nationalité portugaise dans votre cours? Donc, il y en a deux qui m'ont dit non. Un autre qui se trouvait d'origine sénégalaise qui m'a dit, mais si, il y en a, il y a un tel, et c'était des personnes noires. Mais lui, il avait bien identifié que c'était des Portugais, mais pas les autres formatrices qui avaient compris qu'ils parlaient portugais, mais qui pensaient qu'ils étaient d'ailleurs, quoi. Et donc ça, c'est un point, je pense, vraiment intéressant. Et très, très rapidement, juste pour dire aussi que sur ce terrain, après, je n'ai pas les chiffres statistiques ailleurs, mais en tout cas, sur ce terrain, je pense qu'il y a un certain nombre de Portugais encore logés en HLM, puisqu'il y a eu des bidonvilles, des personnes relogées dans le parc social, et que c'est aussi stratégique ou pas stratégique, mais certaines familles restent de manière stratégique ou pas longtemps dans ce parc social. C'est des familles que j'ai rencontrées par le centre social. Et dernier point sur les deux questions, sur les comparaisons avec les gens qui n'ont pas migré au Portugal. Je pense que c'est des choses qui ont été bien aussi étudiées par d'autres travaux, mais pour l'instant, je n'ai pas assez creusé ça. Moi, ce que je ressens dans les entretiens, c'est qu'il y a vraiment une injonction à se justifier aussi, à montrer que l'émigration a réussi, que c'était le bon choix. Et donc, les gens insistent beaucoup sur le fait qu'ils gagnent plus, mais aussi qu'ils travaillent beaucoup. Et donc, quand ils rentrent, on leur reproche d'étaler leur argent, mais qu'ils rappellent tout le temps qu'ils travaillent beaucoup et qu'en France, on travaille plus qu'au Portugal, ce qui, objectivement, quand on voit les durées de travail, conditions de travail, ne fait pas sens, mais ils argumentent beaucoup là-dessus. Toujours sur ce point-là, je pense qu'il y a aussi plein d'enjeux de positionnement qui sont liés pour les femmes au fait que beaucoup d'entre elles font des ménages chez particuliers ou du nettoyage, que malgré tout, je pense que tu as raison, même si je ne sais pas trop comment le montrer, le travail d'employés domestiques ou de nettoyage a dû beaucoup quand même se dévaloriser au Portugal. Du coup, les femmes qui ont ces emplois-là en France, d'abord, ne se définissent jamais comme femmes de ménage, mais je ne sais pas si d'autres femmes de ménage se définissent comme telles. Elles disent qu'elles font des heures, on fait des heures, et on fait des heures où on travaille à tel ou tel endroit. Et puis, elles justifient ça par le fait que les salaires sont meilleurs. Et aussi, souvent, mais ça a dû peut-être être étudié, par le fait que les relations de travail chez les particuliers ou dans le nettoyage en France, alors dans le nettoyage, ça dépend où, mais en tout cas, chez les particuliers, sont moins difficiles qu'au Portugal, que les rapports de classe sont moins frontaux, quoi. Elles ne le disent pas comme ça, mais vraiment, c'est ça qui est dit. Et aussi qu'elles acquièrent plus de ressources en travaillant chez des particuliers. On leur explique comment faire des papiers, on leur donne des conseils sur plein de trucs. Ça revient souvent, mais là, il y a des travaux là-dessus. Je pense que c'est important. Mais par contre, au Portugal, ça a l'air pas d'être valorisant de dire qu'on fait des ménages, quoi. Donc, c'est le surtravail qui permet de justifier sa réussite et le gain. Mais là, pour le coup, il y a quand même beaucoup de travaux là-dessus et je n'ai pas encore tout creusé. Sur la position des émigrés quand ils reviennent au village durablement ou temporairement, toutes ces stratégies de justification, les rapports avec les personnes restées au village. Donc, je m'arrête là. Je vous remercie toutes et tous d'avoir tenu jusqu'à 18h25 dans cette salle et pour votre attention toute la journée à toutes les participantes et participants. Et donc, si vous en avez le temps, on sera ravis de vous accueillir sur la